Merci d'écouter Radio Capi. C'est l'heure de vous informer. Le journal Blaise Jordan Shindani Kambala.
Radio Capi.
À Kinshasa, la MONUSCO a célébré hier la journée internationale des casques bleus. Dans son discours, James Schwan est revenu sur le lourd tribut payé par les soldats de la paix depuis le déploiement de la mission alors appelée MONUC en 1999. Il a rappelé que 469 casques bleus ont perdu la vie en protégeant les populations civiles en République démocratique du Congo. Un hommage solennel à ces femmes et ces hommes qui ont servi sous les drapeaux des Nations Unies, parfois au péril de leur vie, pour soutenir la paix et la stabilité dans les pays. Dans la lutte contre la maladie à virus Ebola en RDC, le Royaume-Uni annonce avoir déjà mobilisé jusqu'à 21 millions de livres sterling, soit près de 29 millions de dollars américains. Un appui financier destiné à renforcer les capacités de réponse, soutenir les équipes médicales sur le terrain et accompagner les efforts visant à contenir l'épidémie dans les zones touchées. Gouvernance de l'exploitation forestière artisanale au Maniema en RDC et la nouvelle publication du professeur Joseph Amouri Niembo, recteur de l'université bilingue anglicane de Goma Ubago. Dans cet ouvrage, l'auteur qui est l'invité de ce journal ambitionne de contribuer à l'amélioration de la gouvernance forestière en RDC en mettant en lumière les défis, les pratiques locales et les pistes de réforme pour un secteur plus transparent et durable. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal Parler du Matin. À Kinshasa, la MONUSCO a célébré hier, dans son siège de la capitale, la Journée internationale des casques bleus. Une cérémonie marquée à la fois par des hommages rendus aux soldats tombés au combat et par des discours officiels rappelant l'importance du travail accompli par les casques bleus dans les missions de paix. Un moment de recueillement, mais aussi de reconnaissance pour ces hommes et ces femmes déployés dans des contextes souvent difficiles, engagés chaque jour pour protéger les populations civiles et soutenir les efforts de stabilisation. Askin Zigbia Tayoro était présent. Voici son reportage.
Dépôt de gerbes et de fleurs, minutes de silence et discours officiels, ce sont là le grand moment de la célébration de la Journée internationale des casques bleus vécue au quartier général de la MONUSCO ici à Kinshasa. Le chef de la MONUSCO, James Schwan, a rappelé que depuis la création de la mission sous le nom de MONUC en 1999, 469 casques bleus ont perdu la vie dans leur mission de protéger les populations civiles en RDC. Les casques bleus décédés sont originaires de 53 pays, parmi lesquels 435 hommes et 34 femmes. Il ressort de cette statistique que la composante militaire a payé les plus lourds tributs avec 283 membres de la force tombés au service de la paix. James Schwan, chef de la MONUSCO, leur rend un vibrant hommage.
Avec humilité et un profond respect, leur service ne sera jamais oublié et les Nations Unies continueront de rechercher la justice afin de lutter contre l'impunité car les attaques contre les casques bleus peuvent constituer des crimes de guerre.
Dans le contexte des conflits à l'est de la RDC, le casque bleu effectue des patrouilles pour dissuader les attaques comme en Ituri. Ils soutiennent également les FARDC dans le but de neutraliser les groupes armés et sécuriser les zones critiques.
La RDC était représentée à cette cérémonie commémorative par l'ambassadeur Noël Mbemba. Dans son allocution, il a rendu un vibrant hommage aux efforts consentis par les casques bleus pour le maintien de la paix en République démocratique du Congo. Le diplomate congolais a toutefois rappelé que, selon lui, la mission onusienne n'a pas encore atteint pleinement ses objectifs. Noël Mbemba plaide ainsi pour un renforcement du financement de la mission des Nations Unies en RDC, estimant que des moyens supplémentaires sont indispensables pour consolider les acquis et améliorer l'efficacité des opérations de paix. Ces propos ont été recueillis par Askin Zigbia Tayoro.
La célébration de cette journée des casques bleus offre au gouvernement congolais l'occasion d'exprimer sa gratitude et l'infinie reconnaissance à la communauté internationale à travers la MONUSCO, dont le soutien précieux et constant reste indéniable. Elle permet aussi de rendre un hommage particulier et appuyé aux soldats de la paix tombés ici et ailleurs. Ils ne sont pas morts pour rien. Pour que les casques bleus puissent fournir un travail louable, il convient de les doter des moyens nécessaires. Le plan de contingentement soumis à la MONUSCO faute de moyens constitue un recul dans la volonté commune d'atteindre les objectifs du Conseil de sécurité. La réduction du financement suscite des inquiétudes quant à l'impact qu'elle pourrait avoir sur les opérations en RDC. Pour une mise en œuvre efficace du mandat contenu dans les résolutions 2773 et 2808, la MONUSCO a besoin d'un financement prévisible et durable. C'est pour cette cause que le gouvernement ne cesse de plaider auprès des donateurs pour l'élargissement de l'enveloppe vouée à cette fin.
Le Royaume-Uni annonce avoir mobilisé jusqu'à 21 millions de livres sterling, soit près de 29 millions de dollars américains, pour soutenir la lutte contre Ebola en RDC. En visite à Brazzaville et à Kinshasa du 26 au 28 mai, la ministre britannique du Développement international et de l'Afrique, la baronne Jenny Chapman, a échangé avec les autorités congolaises ainsi qu'avec les partenaires engagés dans la riposte. Objectif, renforcer les capacités de réponse, soutenir les équipes sur le terrain et appuyer les efforts visant à contenir l'épidémie dans les zones touchées. Jocelyne Moussaopone nous en dit plus.
Alors que la RDC fait face à une nouvelle épidémie d'Ebola dans sa partie est, le Royaume-Uni annonce un appui financier de près de 29 millions de dollars américains pour soutenir la riposte. Cette annonce a été faite à l'occasion de la visite à Brazzaville et à Kinshasa de la ministre britannique du Développement international et de l'Afrique, la baronne Jenny Chapman. À Brazzaville, les discussions ont porté sur la mobilisation des financements et la coordination régionale afin d'éviter la propagation de la maladie dans les pays voisins. À Kinshasa, la ministre britannique a rencontré le président Félix Tshisekedi, des partenaires humanitaires ainsi que le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Selon Londres, cet appui doit notamment renforcer la surveillance sanitaire, soutenir les équipes médicales et améliorer la prise en charge des populations affectées.
La zone de santé de Nyankunde dans le territoire du Rumu continue de faire face à l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Dans ce contexte, un appui financier de 15 000 dollars américains a été remis ce jeudi à l'hôpital général de référence Centre médical évangélique de Nyankunde par un élu originaire du territoire. Un soutien destiné à renforcer les efforts de prise en charge des malades et à appuyer les équipes médicales mobilisées au quotidien dans cette zone particulièrement touchée. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Selon le médecin, chef de zone de santé de Nyankunde, le docteur Désiré Douabo Moussoubi, cette assistance intervient alors que les structures sanitaires local traverse une période difficile liée à la gestion des cas confirmés d'Ebola.
Cet appui que nous recevons aujourd'hui, c'est pour la prise en charge de tous ces malades-là et aussi dans le cadre de l'appui nutritionnel. Parce que la problématique de l'appui nutritionnel se pose jusque-là chez ces malades-là qui sont aujourd'hui confirmés internés avec tous les suspects que nous avons dans les services.
Le Conseil provincial de la jeunesse dénonce de son côté les conditions précaires dans lesquelles certains malades sont pris en charge et appelle au renforcement des moyens sanitaires dans cette partie du territoire du Rumu. Son président, Deogracias Bungamudi.
Ils vivent dans des conditions où même l'usage des toilettes, le minimum de besoins n'est même pas respecté. On ne peut pas considérer seulement Bunia comme épicentre de maladie, alors qu'ici à Nyankunde, les conditions sont déplorables. Nous prions à ce que même le gouvernement provincial, en attendant l'aide extérieure, puisse mettre le moyen suffisant afin qu'ensemble nous puissions barrer la route.
Selon les autorités sanitaires locales, la zone de santé de Nyankunde compte actuellement 12 cas confirmés d'Ebola, dont 2 décès. Bunia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
La RDC franchit une nouvelle étape dans la modernisation de son système de santé. Elle a officiellement lancé ce vendredi à Kinshasa le logiciel Logimev, un outil numérique destiné à digitaliser la gestion de l'information logistique des produits de santé. Développé avec l'appui de l'UNICEF et de Gavi, Logimev offre une visibilité en temps réel sur les stocks de médicaments et d'intrants médicaux disponibles. Objectif, éviter les ruptures, prévenir les gaspillages liés à la péremption et améliorer la distribution des produits essentiels dans les structures sanitaires du pays. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
Cette plateforme facilitera la gestion des commandes grâce à l'autonomisation et à la centralisation des demandes d'approvisionnement des structures de santé vers les coordinateurs et distributeurs. Pour les programmes élargis de vaccination, la mise en œuvre de Logimev aidera le pays à assurer la continuité des services de vaccination vaccination en vue d'une protection maximale des populations. Docteur Auguste Milabio.
La disponibilité continue des vaccins et autres intrants de vaccination constitue une priorité essentielle.
L'UNICEF estime que le succès de cette nouvelle réforme dépendra surtout de sa gestion durant cette phase pilote. Docteur Thomas Noël Gaya.
La phase pilote doit être documentée avec rigueur. Les succès, les difficultés, les ajustements nécessaires, les questions de supervision doivent être suivies de près.
Au-delà de la technologie, fait savoir le directeur de l'organisation internationale Village Reach, ces projets représentent un investissement dans les renforcements des capacités nationales. Pour sa part, le secrétaire général à la santé souligne que la mise en œuvre de cette plateforme s'inscrit dans la vision du plan national de développement sanitaire et de prévoyance sociale qui vise à doter les pays d'un système intégré capable de fournir des données fiables en temps réel pour une meilleure prise de décision.
Dans un autre registre, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, les poubelles publiques se font rares dans plusieurs grandes artères de la ville. Sur la route de poids lourd, l'avenue Kassavubu, Sendwe et bien d'autres axes, cette absence d'infrastructures de collecte entraîne une accumulation massive d'immondices dans les rues, aux arrêts de bus et dans les marchés. Une situation qui dégrade le cadre de vie, expose les habitants à des risques sanitaires et complique la gestion des déchets dans une ville déjà confrontée à une forte pression démographique. Christophe Ngandou, reportage.
Cette problématique est aggravée par l'incivisme, selon plusieurs spécialistes, transformant les espaces publics en dépotoirs sauvages. Les conséquences sont multiples. Problèmes environnementaux et sanitaires, bouchage des canalisations et rivières urbaines, stagnation des eaux et inondations lors des fortes pluies. La population dénonce cette réalité et appelle les autorités à installer des poubelles publiques dans les principales artères de la capitale.
Poubelle.
Il n'y a pas de poubelles publiques. On ne sait pas si c'est un manque de volonté. Les autorités doivent installer des poubelles
publiques.
De son côté, Jean Delou Monana, chargé des communications du programme Kinshasa Ezobonga, précise que l'hôtel des villes examine actuellement l'installation des poubelles publiques dans les grandes artères. Il dénonce toutefois la mauvaise utilisation des poubelles existantes et l'incivisme persistant de la population.
L'hôtel des villes est en train d'étudier sur ces dossiers pour que la ville de Kinshasa soit totalement verte de poubelles publiques par-ci par-là. Mais le constat est tellement malheureux, la mauvaise utilisation des quinoises et quinoa de ces poubelles publiques crée vraiment de la désolation.
L'installation des poubelles publiques devra s'accompagner des mesures fortes pour assurer efficacement la collecte et le traitement des ordures.
Au Maniema, le gouvernement central à travers le ministère des droits humains et avec l'appui du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, organise des consultations sur la justice transitionnelle. Pendant 3 jours, ces assises réunissent les organisations de la société civile ainsi que des activistes des droits humains. L'objectif, doter les participants de connaissances pratiques sur la justice transitionnelle et les préparer à conduire des consultations populaires, notamment grâce à la récolte des données quantitatives et qualitative auprès des communautés concernées. On écoute le professeur Pascal Mouteba, conseiller du ministre national des droits humains en charge des droits de l'homme, au micro de Florence Kizalunga.
Ici dans la salle, il y a une formation que le Bureau conjoint des Nations Unies vient à côté du gouvernement donner aux participants pour que ceux-ci puissent descendre sur le terrain, aller à la rencontre des victimes parce que pour le gouvernement, la victime doit être entendue dans la mise en œuvre de la justice transitionnelle. Nous visons la récolte des informations. Nous voulons entendre la victime. Qu'est-ce que la victime pense des poursuites, des questions de réparation, des questions de mécanismes de non-répétition. Bref, nous voulons guérir la société. Le gouvernement veut que la victime participe au mécanisme de mise en œuvre de la justice transitionnelle. À la fin de toutes ces consultations, le gouvernement aura une vision globale, holistique de ce que toutes les victimes des violations graves des droits humains en République démocratique du Congo pensent. Et cela va orienter le gouvernement, ou mieux les hautes autorités du pays, à prendre une directive pour garantir les victimes quant à leur indemnisation, quant à leur rendre justice et aussi surtout quant au mécanisme de non-répétition pour que ces graves violations des droits de l'homme ne se répètent plus en République démocratique du Congo.
À Idiofa, dans la province du Kwilu, les enseignants font face à de grandes difficultés pour retirer leur salaire depuis plusieurs mois. La banque payeuse Equity BCDC ne dispose que d'un seul guichet de paye installé au chef-lieu du territoire portant le même nom. Selon les informations parvenues à Radio Capi, certains enseignants parcourent de très longues distances à pied pour atteindre la cité d'Idiofa, où ils peuvent ensuite passer des semaines entières sans être servis. Une situation éprouvante qui perturbe leur travail et aggrave leurs conditions de vie. Dans une lettre adressée à cette institution financière, l'intersyndicale Kwilu 3 sollicite l'implantation de nouveaux guichets à travers le territoire afin de mettre fin au calvaire que vivent ces professionnels de la craie blanche. Alphonse Bambata, rapporteur de l'intersyndicale Kwilu 3, a été joint par Lievin Mwingavubu.
Au mois de juin 2025, la province éducationnelle Kwilu 3 avait commencé une année scolaire perturbée suite au retard de paiement effectué par la banque africaine. L'année a été caractérisée par des marches, des grèves, ainsi de suite. Finalement, on a eu la délocalisation de la banque africaine vers la banque Kiti, qui a commencé l'identification au milieu du mois de décembre 2025 pour finir vers le mois de février 2026. Et après l'identification, il n'y a pas de point cash à Idiofa dans toute l'étendue du territoire qui compte plus de 19 500 enseignants et agents payés. Il y a des enseignants qui quittent de différents points en effectuant plus de 300 km pour arriver à Kikwit et à Idiofa pour chercher l'argent. Un enseignant peut quitter de très loin vers Dibaloubou, vers Mangaï, vers Boulogne pour passer 3-4 semaines à Idiofa sans être payé. Nous demandons l'implantation de l'agence de la banque Kiti BCDC à Idiofa pour éviter la perturbation.
Actualité internationale.
Au Kenya, la Haute Cour de justice à Nairobi a suspendu temporairement ce vendredi 29 mai l'établissement sur le territoire d'un centre de quarantaine pour les ressortissants américains exposés à Ebola. La construction de cette infrastructure a déjà démarré à Laikipia, dans le centre du pays, sur une base militaire aérienne de forces de défense kenyane, mais les organisations de la société civile kenyane ne l'entendent pas de cette oreille.
L'invité.
Gouvernance de l'exploitation forestière artisanale au Maniema en RDC et la nouvelle publication du professeur Joseph Amuli Niembo, recteur de l'université bilingue anglicane de Goma Ubago. L'ouvrage a été présenté au public le 14 mai dernier à Goma. Dans ce livre, l'auteur ambitionne de contribuer à l'amélioration de la gouvernance forestière en République démocratique du Congo, en particulier dans un secteur artisanal souvent confronté à des défis de régulation, de transparence et de durabilité. Il propose des pistes de réflexion et des outils pour mieux encadrer l'exploitation des ressources forestières tout en tenant compte des réalités locales et des besoins des communautés. Le professeur Amuri Niembo est notre invité. Il s'entretient avec Bernardin Nyangi.
Professeur Joseph Amuri Amsine Niembo, bonjour.
Bonjour monsieur Bernardin.
Pourquoi vous avez ciblé Maniema pour cette recherche?
Vous savez que le Maniema, c'est parmi les provinces forestières de la RDC et qui contribue au processus de développement des territoires. Mais nous avons étendu les activités de la recherche dans d'autres provinces. Nous avons été même ici au nord Kivu, à Bissie, vers Walikale. Nous avons été au sud Kivu, à Twangiza. Nous avons choisi les zones minières, là où l'exploitation minière est en train de se faire. Et nous étions en train d'observer les sorts de forêts dans ces zones-là.
Vous avez parlé de l'exploitation minière. Ici, on parle plus de l'exploitation forestière et artisanale. Y a-t-il un lien?
Oui, il y a un lien. D'abord, notre préoccupation, c'était les ressources forestières. Mais nous nous sommes rendus compte que les ressources minières ont une prédominance sur les ressources forestières en RDC. On donne plus de l'importance aux ressources minières qu'aux ressources forestières. Et nous, nous sommes attachés pour essayer de voir l'essor des ressources forestières dans les zones minières. Et là, nous avons pris, par exemple, la zone de Kailo, qui est une zone minière et également forestière.
Vous avez voulu dégager l'impact que l'exploitation artisanale forestière peut avoir sur les ressources forestières.
Justement, la question principale pour notre recherche était de savoir les rôles que jouent les ressources forestières dans le développement d'un territoire. Puisque jusqu'à un certain niveau, les acteurs n'ont considéré que les ressources minières comme les ressources qui contribuent plus au développement des territoires, ignorant les rôles que jouent également les ressources forestières. C'est comme ça que nous nous sommes intéressés plus pour dégager les rôles que joue l'exploitation forestière dans le développement des territoires.
Et quel est le problème que vous avez pu dégager par rapport à la gouvernance dans ce secteur?
D'abord, nous sommes partis par le fait que les ressources forestières, c'est des ressources qui sont aujourd'hui aux enjeux même des relations internationales. Vous essayez de voir les sommets, les conférences à travers l'humanité où on discute sur les questions forestières. Et nous nous sommes dit que presque tous les pays qui sont développés les sont aujourd'hui parce qu'ils sont si exploités rationnellement et durablement les ressources forestières. Et la RDC dispose de potentialités énormes en termes de ressources forestières, mais malheureusement, le développement tarde à venir. Alors, c'est de là où notre questionnement a commencé. Comment ça se fait que nous en avons des ressources abondantes, mais malheureusement, le développement ne vient pas. Les réservoirs en termes de ressources pleines, mais malheureusement, nos assiettes, il n'y a rien. Nous sommes des pauvres. Alors, nous avons voulu comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans l'exploitation forestière. De quelle manière ça se fait? Et là, alors, nous avons abordé la question de la gouvernance. Cette gouvernance, pour nous, était question de voir de quelle manière les acteurs s'organisent. Les interactions en termes de dépendance entre ces acteurs. Puisque les ressources forestières sont des ressources communes. Et lorsque on doit les exploiter, on doit mettre en avant la promotion du développement, puisque chaque forêt est habitée par les gens qui l'entourent. Et ces gens-là vivent dans cette forêt et avec les ressources de cette forêt-là.
Et le constat général par rapport à ça?
D'abord, nous avons remarqué que sur le plan socio-économique, oui, il y a de l'exploitation qui est en train de se faire, mais malheureusement, elle est de très loin pour contribuer au développement. Et ici, nous avons remarqué des défis en termes de corruption, de mafia dans l'exploitation des ressources. Et tous ces éléments-là ne contribuent pas facilement au développement de la province, puisqu'il y a le manque à gagner au niveau de la caisse de la province. Nous avons essayé de proposer un modèle de la gouvernance autour d'une forêt modèle. Ici, c'est une gouvernance hybride que nous proposons à la politique pour essayer de voir comment construire un partenariat public-privé, définir les mécanismes de gestion collective et s'arranger autour du partage des intérêts ici de cette exploitation-là.
Professeur Joseph Amoury, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était notre invité, le professeur Amoury Niembo, qui s'entretenait avec Bernadette Nyangui. Voilà qui met fin à cette édition du journal coordonnée et supervisée par Jude Bilandan Kumar et mise en onde par Alain Goy. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net. Place à présent aux informations sportives avec Jean Gandou Kabongo qui vient de me rejoindre dans ses studios. Bonjour Jean.